Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand regret que je ne peux participer aujourd'hui à ce formidable programme de votre journée de la EPEA sur les nouvelles technologies et notamment le rapport des enfants et des adolescents aux écrans. Donc avec les organisateurs, nous avons convenu que, même si ce sera moins vivant, je vous fasse une mini-conférence que nous enregistrons aujourd'hui, c'est-à-dire la veille, dans mon laboratoire de la Sorbonne, qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, laboratoire du CNRS, créé sur le site historique où Alfred Binet, jadis, il y a plus d'un siècle, inventa les premières échelles du développement de l'intelligence. Et aujourd'hui encore, dans ce laboratoire, on cherche à comprendre, avec les technologies les plus nouvelles, les écrans dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi l'imagerie cérébrale, structurelle et fonctionnelle, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant qui apprend, et en particulier face à des écrans. Donc, concernant le thème de cet exposé, impact des écrans au cours du développement, ce sont davantage des éléments de réflexion. Il faut tout de même avoir à l'idée que le recul est extrêmement court depuis la révolution du numérique. Si l'on se réfère à la révolution cognitive antérieure qui a eu lieu, comparable, celle de l'imprimerie à la Renaissance, on voit combien nous sommes très très proches, nous sommes à peine à 10 ans, comme si nous étions à 10 ans de la première Bible publiée par Gutenberg avec ses caractères métalliques mobiles, donc le début de l'imprimerie. Les premières tablettes sont arrivées de façon systématique au pied des sapins de Noël des enfants il y a seulement quelques années. Donc le fait que des congrès s'organisent, que des programmes de recherche se lancent, y compris avec l'observation du cerveau de l'enfant, et finalement, par rapport au peu de temps de recul que l'on a, déjà une prise de conscience formidable de la recherche et des professionnels de la psychologie. Donc, la question qu'on se pose, que les psychologues se posent, les parents, les professeurs, beaucoup les journalistes, est quel est l'impact des écrans au cours du développement cognitif? La première réponse que je voudrais donner, qui ressort vraiment des recherches expérimentales que l'on a faites, c'est que lorsque vous observez un adolescent comme celui-ci face à un écran, et qu'il doit par exemple résoudre une tâche de raisonnement, on a démontré ici même dans mon laboratoire que selon la stratégie de raisonnement, le mode de pensée qu'il va décliner, appliquer, il va mobiliser des réseaux neuronaux radicalement différents. Vous avez ici le cerveau du même adolescent, celui-là, selon qu'il va fonctionner de façon très automatique, par exemple visuelle et spatiale, ou ici le cerveau de l'adolescent qui aura appris à inhiber son automatisme visio-spatial pour raisonner autrement, être créatif, trouver une solution logique. Et c'est seulement à ce moment-là que son cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, se met en marche et qu'il se libère en quelque sorte de ces automatismes un peu trop rapides de pensée, automatismes cognitifs. Ce qu'on a donc là, c'est un phénomène de variabilité intra-individuelle, on peut aussi l'appeler la plasticité cérébrale, et cela pose d'emblée tout le problème. Vous avez ici la chaîne, on va dire, du traitement de l'information dans le cerveau humain, depuis l'entrée visuelle, c'est l'œil qui regarde l'écran, jusqu'à la commande motrice. La commande motrice, c'est le doigt qui appuie sur une touche, ou qui clique, ou qui bouge sur un écran tactile. Donc, on est toujours entre entrée visuelle et commande motrice. Et entre les deux, on présuppose en général qu'il y a toute une chaîne assez linéaire de traitement cognitif des informations. Codage de l'information, calcul de la transformation, évaluation de la récompense, donc l'aspect émotionnel que l'on imagine, les feedbacks, décodage de l'information, traitement moteur qui va préparer la commande motrice, et qu'à travers cela, il y a des sélections d'actions particulières. Ce que je montre par ce résultat obtenu ici dans notre laboratoire, c'est que cette chaîne de traitement peut s'opérer par exemple via un réseau comme ce réseau très postérieur, voie ventrale, voie dorsale, on va dire d'un raisonnement très automatique et visio-spatial, ou alors cortex préfrontal qui va faire que la commande motrice sera sous-tendue non pas par un automatisme visio-spatial, mais par une réflexion, une certaine logique, le temps du recul, de la prise d'un point de vue personnel. Et donc, par ces images, en quelque sorte, déjà tout est dit. Il ne s'agit pas seulement de se demander s'il faut tolérer ou interdire les écrans, c'est lorsque l'enfant est face à l'écran que apprend-on à faire à son cerveau pour raisonner, pour jouer, pour progresser. Et donc la responsabilité des parents, des professeurs et des éducateurs est énorme, puisqu'on voit combien l'enfant, si on le laissait de façon autonome jouer sur un mode uniquement automatique, stéréotypé et répétitif, pourrait ne faire fonctionner en boucle que cette partie du cerveau et utiliser très peu ses capacités de réflexion, de synthèse personnelle, de prise de recul. Donc cette plasticité, cette fragilité finalement du cerveau humain dans ces zones d'application rend encore plus grande qu'on peut l'imaginer l'importance de la réflexion sur les écrans. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous chercheurs, professionnels de la psychologie, c'est mettre en relation ces deux machines, la machine électronique, que ce soit un ordinateur classique comme celui-ci ou une tablette, smartphone, la machine électronique et la machine biologique et cérébrale. Et le grand défi de cette révolution technologique actuelle, comme le fut l'imprimerie à l'époque, est que ces deux ordres biologiques et électroniques interagissent via qui ? Mais via les humains, et notamment via les enfants en développement. Alors, dans ce cadre, vous savez sans doute que nous avons, à la demande de l'Académie des sciences, et Serge Tisseron qui intervient aussi dans cette journée en est l'un des co-auteurs, nous avons rédigé un rapport qui s'appelle « L'enfant et les écrans », qui est un avis de l'Académie des sciences. Et nous ne souhaitions pas seulement faire une réflexion scientifique ou théorique, nous avons d'emblée, ce qui n'a pas toujours été dit dans la presse, nous avons d'emblée en parallèle construit, co-construit un manuel pédagogique avec la fondation La Main à la Pâte qui s'appelle « Les écrans, le cerveau et l'enfant ». Et dans ce manuel, nous avons construit une vingtaine de séances pédagogiques extrêmement concrètes où, par exemple, on entraîne les enfants à inhiber un automatisme face à l'écran, ne pas répondre tout le temps, ne pas répondre trop vite. Une autre séance sur la conscience du temps qui passe. On apprend à des enfants qui jouent à deux face à l'écran, l'un mesure avec le chronomètre le temps objectif, l'autre joue sur l'ordinateur ou recherche des informations, regarde des images, et va devoir mesurer, quantifier sur une échelle le temps subjectif, le temps qu'il croit avoir passé devant l'écran. Comme vous l'imaginez, il y a un écart systématique qui fait que le temps objectif est plus grand que le temps subjectif. Se déclenche, vous le comprenez, un déclic métacognitif où ils retiennent, et sans doute pour très longtemps dans leur vie, qu'en effet, systématiquement, il y a un décalage quasiment mathématique, ou en tout cas psychomathématique, entre le temps objectif et le temps subjectif qu'ils passent à l'écran. Et par ailleurs, outre le fait qu'ils apprennent à s'auto-réguler, là c'est l'exemple du temps, l'exemple précédent c'était l'automatisme de réponse trop rapide, montre aussi aux enfants finalement qu'on s'intéresse à eux, et que c'est un problème pour les parents et pour les éducateurs que ce qu'ils font avec leur cerveau, leur comportement, face à l'écran. Et rien que cela, au-delà du contenu des interventions, le fait que les enfants voient que c'est un sujet de préoccupation, de réflexion, le rapport aux écrans, est très bien pour eux. Les résultats des premières recherches d'imagerie cérébrale montrent déjà une chose fort intéressante. Si vous regardez simplement la maturation au cours de l'enfance, donc ici la naissance, l'âge adulte, on a des courbes en U inversées qui se chevauchent. Ces courbes en U révèlent l'ouverture neuronale, une grande augmentation, une multiplication des connexions synaptiques possibles. Et à un moment donné, vous voyez que chacune de ces courbes, après augmentation, diminue. Et lorsqu'elle diminue, c'est parce qu'il y a une sélection, un élagage neuronal. Et c'est donc parce que l'on apprend, on se spécialise. C'est très connu pour le langage, où au début de la vie, chaque bébé du monde peut potentiellement parler, comprendre, entendre, discriminer les phonèmes de toutes les langues du monde. Néanmoins, selon le bain linguistique, il va refermer ses tiroirs neuronaux à une langue ou deux langues si le bilinguisme a été précoce. Ce qui est vrai pour le langage est vrai dans tous les domaines du développement cognitif. On a des phases de connexion très ouvertes et puis de sélection parce qu'on a appris à catégoriser, à dénombrer, à raisonner. Et donc, nos réseaux se sélectionnent en interaction avec l'environnement et se stabilise. Cela étant dit, la vraie info qu'il y a sur ce schéma est encore autre. C'est que au lieu d'avoir une seule courbe de maturation au tout début de la vie, on a souvent entendu « tout se joue avant 2 ans, tout se joue avant 1 an », c'est totalement vrai et totalement faux. C'est vrai pour les systèmes sensorimoteurs qui se trouvent ici. En effet, sur le plan de la sensorimotricité, et Piaget l'avait très bien vu avec son stade sensorimoteur, le cerveau est très tôt mature et efficace. Mais si vous prenez par exemple la courbe la plus lointaine, dont la maturation et l'efficacité perdurent à se développer durant l'adolescence et l'âge adulte. Cette courbe la plus lointaine, c'est le cortex préfrontal, dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux cortex du contrôle cognitif, de l'inhibition, ce que j'ai aussi appelé, comme vous le savez dans mon livre, la résistance cognitive, ce cortex préfrontal qui permet de résister à ces automatismes de pensée, ou résister tout simplement à une action, une motricité trop rapide, se développe en tout dernier. Donc c'est le plus fragile et le moins efficace au cours de toute l'enfance. Si on applique cela à la question du numérique, des nouvelles technologies, ça veut donc dire que très tôt, les jeunes enfants, voire les bébés, et pourquoi pas, seront extrêmement, auront une grande dextérité avec les écrans. Ils sont adaptés au tactile. Les bébés adorent toucher du doigt ce qu'ils voient. Les enfants de quelques années, on le voit, utilisent mieux les écrans, les tablettes que leurs parents ou que leurs grands-parents. Du point de vue du cerveau, ça n'a rien de surprenant, parce qu'en effet, c'est l'époque où vraiment leur efficacité sensorimotrice est très grande, très éveillée. En revanche, ces mêmes enfants ne sont pas encore du tout matures pour contrôler ce qu'ils font face à l'écran et qu'ils peuvent très bien répondre vite et être donner le sentiment d'être de très bons informaticiens spécialistes du digital parce qu'ils utilisent très bien l'instrument sur le plan sensorimoteur, mais du point de vue de la pensée, du point de vue du raisonnement, être au niveau minimal, je dirais, parce que le cortex préfrontal qui permet précisément d'ordonner ses pensées, de résister aux automatismes, lui n'est pas encore du tout mature. Toujours pour comprendre ce monde des écrans et le développement cognitif, dans les recherches sur le développement cognitif, après Piaget, et en ayant à la fois fait honneur à sa théorie, en ayant critiqué, ce que l'on étudie aujourd'hui, c'est l'architecture cognitive. Comment, du jeune enfant à l'âge adulte, doivent se construire les notions fondamentales, les invariants conceptuels que sont la permanence de l'objet, le nombre, la catégorisation et le raisonnement. Ce livre jaune que je fais disparaître derrière mon dos, il est évident pour vous qu'il continue d'exister. Votre cerveau infère la permanence de l'objet. Si je le cache partiellement, il ne s'agit pas pour vous d'un demi-livre, parce que votre cerveau infère l'unité de l'objet. Lorsque le bébé a inféré unité et permanence de l'objet, de façon irrépressible pour le reste de la vie, l'enfant plus grand, l'adolescent et l'adulte, aura la gourmandise cognitive de faire soit du traitement quantitatif, c'est le nombre qui conduira aux mathématiques, soit du traitement qualitatif, la catégorisation, forme, couleur, fonction, qui conduira aux taxonomies. Mathématiques et taxonomie sont vraiment l'objet de construction culturelle dans le cerveau, d'apprentissage culturel. Et enfin, lorsque ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs ne porteront plus seulement sur des objets concrets, comme l'exemple de ce livre, ou comme vous et moi, des objets humains, lorsque cela ne portera plus seulement sur du concret, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, on accédera au raisonnement. Et ce qui est important de concevoir, c'est que cette architecture cognitive, ce qu'on appelle le développement de l'intelligence, de l'objet au raisonnement, est ce qui va donc nous permettre de structurer le réel, mais qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes notions, avec la révolution numérique, qu'il faut considérer en ajoutant la complexification de l'environnement technologique par les écrans. Parce que de fait, la permanence de l'objet est très sollicitée sur les écrans, puisqu'on est plus dans le virtuel, on parle d'objets qui ne sont pas présents ici, mais que l'on peut imaginer ou dont on peut se souvenir. Le nombre et la catégorisation en permanence, sur un écran, lorsque vous faites un jeu ou que vous discutez sur un réseau social ou que vous utilisez un moteur de recherche comme Google, vous faites en permanence du traitement qualitatif, catégorisation et ou quantitatif, nombre. On pourrait dire que ce qui est peut-être le moins sollicité est le raisonnement, mais on peut aussi en faire face aux écrans puisque précisément un moteur de recherche peut être un très bon outil pour faire du raisonnement hypothético-déductif. On émet une hypothèse, on se pose une question, et à partir de cette question et de cette hypothèse, on va rechercher des informations dans le moteur de recherche, et dès lors, partout où l'on veut dans le monde, donc il y a là quand même une puissance d'exploration inédite, à vérifier ou à infirmer notre hypothèse. Donc, dans le meilleur des mondes, le raisonnement pourrait aussi être très renforcé par les écrans. Mais on peut aussi imaginer qu'on ne fonctionne que de façon très automatique, comme je le disais tout à l'heure, basique, primaire, en appliquant systématiquement les mêmes automatismes de dénombrement ou de catégorisation, sans vraiment raisonner. Une photo que vous voyez ici, que j'ai prise en famille, c'était après le repas de Noël, vous voyez sur le canapé, toute une série d'enfants d'âge chronologique, le papa, tous regardent soit sur une tablette, soit sur un écran. Regardez néanmoins, pour les spécialistes psychologues, que c'est de l'attention conjointe. Hein. Ce n'est pas un écran, un enfant. Ils sont quand même à trois, il y a un groupe social, et à trois, ils savent qu'ils sont en train de porter leur intérêt sur la même chose. Et l'autre petit qui arrive tout en ayant aussi un petit écran, peut aussi s'agir d'un faux téléphone portable comme il en existe dans la main, observe, regarde, a sans doute peut-être envie d'interagir avec eux, il ne le regarde pas. Bref, on a là un peu une tranche hein, de la réalité sociale d'aujourd'hui, des enfants en famille, donc situation naturelle, on est bien dans le monde réel, il y a des plantes, des canapés, des humains, mais les écrans sont là et on voit combien ils changent hein, l'organisation de ce groupe, de cette famille à ce moment-là. Donc la question qui se pose, c'est dans le nouveau monde ainsi fait, comment vont continuer de se construire ou se construire autrement la permanence de l'objet, le dénombrement, la catégorisation et le raisonnement, qui constituent donc l'architecture cognitive. Dans donc, cet avis de l'Académie des sciences, nous avons de façon générale, en termes de principes, préconisé pour tous ces âges, comme ceux que l'on vient de voir, une pédagogie différenciée du bébé à l'adolescent. Et notre avis insiste, comme je l'évoquais déjà, sur la capacité fondamentale d'une éducation à l'auto-régulation de l'enfant face aux écrans, et cela dès le plus jeune âge, puisque l'on constate que dans les familles, les écrans sont là, hein, comme sont là aujourd'hui tous les autres objets usuels. Donc, s'ils sont là, s'impose dès l'instant où ils sont là, dès le plus jeune âge, une autorégulation face aux écrans, qui ne sera pas spontanée, hein, naturelle. Donc, il faudra d'abord que ce soit une régulation provoquée par les adultes, par les grands frères, les grandes sœurs, mais que peu à peu, et c'est un mécanisme que je ne vous apprendrai pas et qui est très connu en psychologie, après une régulation effective par le langage, par la communication, par le dialogue, peu à peu, Vygotsky avait décrit ça très bien, on peut en arriver à un langage intérieur et une régulation intériorisée. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le cerveau les fonctions exécutives du cortex préfrontal qui nous permettent d'anticiper, d'inhiber telle réponse, au sens positif de l'inhibition. Donc l'inhibition de cette réponse va nous permettre d'être flexible, d'en activer une autre. À ce moment-là, l'enfant, sur un réseau social, ne va pas nécessairement dire « j'aime » ou « j'aime pas », mais essayer de se dire « est-ce que le raisonnement qu'on me tient est valide ou pas valide ?» Et là, vous retrouvez Aristote, les syllogismes, qui déjà dans la Grèce antique luttaient contre les sophismes et les paralogismes, Montaigne, guerre des religions, qui luttait contre les manipulations de l'esprit et qui parlait d'une éducation au contrôle de l'esprit. Si l'on reprend la chronologie des stades, ce qu'on appelait classiquement le stade sensorimoteur, fait que, en effet, vous voyez cette autre photo que j'aime beaucoup, qui correspond aussi à une tranche de vie, une tranche de réel. Vous voyez sans doute le grand-père, la grande sœur, et un jeune bébé, tous les trois, ont une triple attention conjointe sur une tablette, avec des choses jolies, colorées. Très vraisemblablement, quand on appuie sur une touche, on va entendre un son ou une forme va se déplacer. Vous voyez l'intérêt du bébé. Vous voyez que le doigt du bébé, qui ne pointe pas, mais est pointé. On est donc dans une conduite très classique sociale d'imitation, de préparation à l'imitation. Et de surcroît, comme on l'a vu, ses capacités sensorimotrices sont déjà très éveillées. Donc, il a l'aptitude, la gourmandise et l'envie de toucher du doigt ce qu'il voit. Et cela, on le savait bien avant l'émergence des écrans et du numérique. Donc, il y aura un contresens social, cognitif, neurocognitif à empêcher les bébés de toucher la tablette de leur grand-père ou de leur grande sœur ou grand frère quand ils les voient, surtout si cette tablette déclenche des sons, déclenche des couleurs, dont vous comprenez que ça va déjà éveiller la catégorisation, par exemple. Dans ce cadre donc d'éveil précoce, et chaque mot a son importance, une tablette numérique interactive, parce qu'il s'agira à ce moment-là d'une interaction, l'enfant n'étant pas passif, mais acteur des événements qui vont se produire sur la tablette, image ou son, interactive au double sens aussi que nous, ce que l'on préconise, c'est jamais de bébé ou de jeune enfant seul, avec une tablette ou un écran, et encore beaucoup moins avec une télévision ou un JT de 20 heures qui présenterait des informations violentes ou incompréhensibles, en tout cas pour l'enfant. Moi, je suis très clair sur ce point-là, mais De là à exclure une interaction sociale sur un objet technologique nouveau pour lequel le bébé a déjà l'aptitude sensorimotrice et l'appétence cognitive de faire des découvertes, ça, ce ne serait pas bien à mon avis, parce que ce serait frustrer la nouvelle génération de son intérêt qui peut être précoce pour le numérique, mais toujours, comme on le voit sur cette photo, accompagné à plusieurs et dans le cadre éducatif de cette autorégulation qu'on va apprendre à mettre en place. Et on sait que ces tablettes qui ont été conçues tactiles, très intuitives, plutôt pour les adolescents ou les adultes, en fait rentrent, et ça n'a pas été prévu, je pense, au départ, entrent totalement en résonance avec le mode de fonctionnement des bébés qui aiment toucher du doigt ce qu'ils voient et qui, du coup, quand ils bougent le doigt de telle façon, ils vont voir apparaître telle forme ou telle couleur. Quand ils bougent le doigt un peu différemment, ils auront la forme et le son. Et une fois de plus, les découvertes les plus pointues en sciences cognitives chez le bébé aujourd'hui montrent que le bébé est déjà bayésien, c'est-à-dire qu'il infère la probabilité des causes à partir des effets observés, et que le monde du bébé n'est pas seulement ce qu'il voit, ce qu'on lui montre. En permanence, le bébé recherche des causalités, infère des structures causales. Et dès lors, ça explique aussi, en plus de son goût pour toucher, l'envie qu'il a déjà d'exercer son cerveau et son intelligence en créant des séquences originales ou en retrouvant des séquences qu'il avait préalablement réalisées. Et tout ça, vous comprenez qu'en termes d'intelligence, on pourrait dire de cognition physique, c'est déjà l'émergence de la causalité, du « si, alors ». Si je place mon doigt là, alors je vois telle image. Si je place mon doigt là, alors j'entends tel son. Si je fais telle séquence, ce qui est un peu plus complexe, ou pour des jeux qui existent maintenant pour les enfants un peu plus grands d'apprentissage de la géométrie, notamment des jeux Montessori numériques, les enfants doivent parfois de façon très fine utiliser leurs doigts pour faire des rotations tridimensionnelles d'objets dans l'espace. Donc là aussi, il y a une fausse idée que de dire que les enfants sur les écrans n'apprennent plus à faire bouger leurs doigts ou à faire des coordinations motrices. C'est faux. Ils peuvent le faire, ce qui n'exclut pas du tout aussi de le faire dans le réel avec des vrais objets. Il n'y a aucune raison d'opposer les choses. Et le cerveau humain, comme on l'a vu, est encore suffisamment ouvert, comme pour les langues, et le numérique est une forme de langue, le cerveau humain est encore suffisamment ouvert pour que l'enfant puisse à la fois apprendre le nombre, la catégorisation, le raisonnement, la causalité physique dans le numérique et ou dans le monde réel. Et de... la même façon, on peut considérer que c'est bon, très bon même, de switcher de l'écran au réel ou de la feuille à l'écran pour commencer à prendre l'alternance du virtuel, le semblant et du réel, c'est-à-dire le pour de vrai, et en jouer tout en faisant la part de l'un et de l'autre. Considérer la question de la distinction du réel et du virtuel à l'adolescence, ou voire plus tard pour les cas de radicalisation, de déradicalisation, c'est évidemment beaucoup trop tard. Et c'est à ce moment-là le plus propice dans le développement cognitif de l'enfant entre 2 et 6 ans. Je vais reprendre l'exemple du dessin. On dit quelquefois, mais si là vous avez une illustration d'une tablette graphique. Si l'enfant ne dessine que sur tablette graphique, il ne sera plus capable de dessiner avec du papier crayon dans le réel. Évidemment, comme pour tout apprentissage, si on n'apprend plus qu'à faire une seule chose, l'autre n'étant pas entraîné, elle disparaît. Mais personne n'a dit de faire ainsi. Il faut au contraire apprendre à faire les deux. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que imaginez que l'enfant dessine sur sa tablette graphique un bonhomme. Vous comprenez bien, et tous les psychologues qui sont là le prédiraient, spécialistes du dessin ou d'entretien individuel, qu'on va retrouver dans le dessin dessiné sur la tablette par l'enfant tous les stades du dessin enfantin du bonhomme. Il n'y aura pas un dessin de bonhomme différent parce qu'on est sur une tablette ou sur un papier. Donc, on va dire le niveau de complexité d'élaboration du dessin de l'enfant sera sans doute très comparable et on a déjà pu le tester. En revanche, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière cela ? C'est que justement, parce que son bonhomme ressemble à un tétard ou parce que son bonhomme est bizarre, l'enfant va immédiatement comprendre par son action, par son dessin et par la perception de son dessin, que c'est une image sur l'écran que lui a construite. Et donc vous comprenez qu'en termes métacognitifs, philosophiques, réflexion sur le numérique, ce qu'on apprend à l'enfant, c'est que les images sur les écrans sont construites. Et la meilleure façon de le faire, comme l'enfant est encore assez égocentré, disons, c'est qu'il s'en rend compte par lui-même. Et là, il va évidemment, ne serait-ce qu'implicitement, savoir que c'est son image à lui, et ne plus croire que sur l'écran, c'est la réalité. Et plus son bonhomme sera caricatural, mieux ce sera, parce que précisément, il verra que ce n'est pas aussi beau que le dessin, par exemple, qui était dans l'histoire du Chaperon Rouge, ou qu'un jeu hyper réaliste qu'il ferait. Donc, vous voyez que, là aussi, j'essaie de complexifier les débats qu'on peut avoir, au-delà de dire « Ah, si l'enfant dessine sur une tablette, il n'aura plus la finesse de coordination des doigts pour dessiner sur papier. » Bien sûr, donc il faut qu'il fasse les deux. Mais sachez aussi que ne pas interdire surtout les tablettes graphiques, parce qu'à travers ça, l'enfant comprend pour la première fois ce qu'on apprendra plus tard en école de journalisme, beaucoup plus tard, à l'âge adulte, que les images sont construites, que ce qu'on voit à la télé ou sur écran, c'est toujours une construction avec un auteur. Et là, l'enfant ressent évidemment, ne serait-ce que par son proprioception, ses feedbacks moteurs, que c'est lui qui dessine. Donc, cet exemple, on pourrait le décliner à tous les autres aspects de la pensée symbolique. Et c'est ça que j'appelle commencer à jouer sur l'alternance entre le réel et le virtuel. Toujours à cet âge-là et un peu plus tard à l'école primaire, la question du jeu. Alors, je vais faire une remarque générale pour le jeu. Ce qu'il y a d'abord de génial, c'est que le jeu, on a tous appris dans nos études de psychologie que c'était plutôt un stade enfantin, que ce soit le jeu chez Château, chez Vallon, chez Piaget, j'en oublie d'autres, les fameux stades du jeu qui ont par ailleurs été décrits de façon corrélative avec le dessin. Aujourd'hui, ce n'est plus un stade enfantin, c'est une stratégie, un rapport au réel adulte. Dans l'entreprise, on joue. Dans les CV des recruteurs, aujourd'hui, il y a les scores de jeu dans tel ou tel jeu qui implique de la stratégie, qui implique de la coopération sociale. Donc, le jeu n'est pas un stade. Moi, ça correspond assez bien à ma conception du développement, qui n'est pas par stade, mais dynamique et non linéaire, avec des modes de faire ou des modes de stratégie qui peuvent ressurgir à tout moment, et le jeu en est un exemple. Le jeu domine chez le jeune enfant, on a cru que c'était un stade, mais on voit que l'apparition de technologies nouvelles et de jeux vidéo font que les adultes jouent autant, voire plus, que les enfants. Sans parler des maisons de retraite. Alors, la pratique de certains jeux vidéo améliore, et ça c'est expérimentalement montré, il faut le dire, et on l'a dit dans ce rapport, les capacités d'attention visuelle, identification de cible, flexibilité, attention simultanée à plusieurs choses et prise de décision rapide. Donc là aussi, il faut casser certaines idées reçues. On dit mais les écrans, l'exposition aux écrans va rendre les enfants moins concentrés, moins attentifs. Ça peut l'être s'ils sont fatigués et si les écrans les a fatigués. Mais ça, ce n'est pas spécifique à l'écran, c'est spécifique au fait que nous avons des capacités limitées de traitement, d'attention, de mémoire et tout simplement physique, de fatigue du corps, de la posture et aussi de fatigue visuelle. On sait aujourd'hui que les écrans fatiguent beaucoup les yeux. Donc là, oui, évidemment, si c'est de l'ordre de la fatigue, eh bien, il faut arrêter de regarder l'écran, diminuer le temps d'écran parce que l'enfant sera fatigué et dès lors ne sera pas concentré dans une autre tâche qu'il devrait faire en même temps ou après. Mais en dehors de ces questions de fatigue, en soi, quand l'enfant est bien réveillé et qu'il joue avec l'écran, cela améliore toutes ses capacités d'attention visuelle que j'ai évoquées. On peut rapidement le comprendre parce qu'on doit très rapidement identifier une information sur l'écran. Si l'on joue, on doit sélectionner le bon distracteur, la bonne cible, la bonne info au bon moment. Donc c'est un super entraînement que n'ont sans doute pas eu les générations antérieures à être attentif à plusieurs choses, faire du multidimensionnel, être très rapide pour identifier une information nouvelle. Donc tout cela contribue à une attention visuelle accrue. Et l'usage des écrans, qu'il s'agisse de jeux ou d'exploration sur Internet, de façon générale, améliore ce qu'on peut appeler l'intelligence fluide. Justement, cette capacité à être très rapide, multitâche, switcher d'une chose à l'autre. Et de façon générale, et on le remarque dans les générations qui viennent, ils ont aussi des défauts, on le verra, mais l'une des qualités, c'est cette rapidité et fluidité de l'intelligence qui est sans doute provoquée par l'exercice intense des écrans. Donc le jeu peut avoir des effets positifs sur tous les aspects d'attention visuelle évoqués. Les jeux ont aussi des effets positifs en domaine éducatif. Souvenez de l'architecture cognitive, de l'objet au raisonnement. Prenons l'exemple de la catégorisation. L'un des enjeux éducatifs importants à la fin du maternel, début du primaire, est évidemment l'apprentissage de la lecture, hein, qui est quand même une clé d'accès essentiels au monde. Et bien, par exemple, il existe un logiciel d'accès libre qui s'appelle GraphoGame, qui prépare les enfants à la lecture. Donc, c'est un logiciel ludique d'apprentissage des associations entre les graphèmes, les lettres, et les phonèmes, les sons. C'est pour ça qu'il s'appelle GraphoGame. On sait, tous les travaux scientifiques l'ont montré, que ce qui est au cœur de l'apprentissage de la lecture, ce sont les correspondances grapho-phonologiques. Eh bien, un jeu était conçu pour, de façon extrêmement agréable pour l'enfant, motivante, en évoluant à son rythme sur l'ordinateur, en passant de niveau de jeu de plus en plus grand, en progressant donc, ce jeu a révélé son efficacité sur les performances en lecture, mais aussi sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, puisqu'une étude magnifique d'imagerie cérébrale a été faite avant et après ce jeu, et a révélé combien le réseau de la lecture, qui est connu et que nous on a aussi identifié chez plus de 800 enfants dans mon laboratoire, ce réseau de la lecture chez l'enfant, qui est dans l'hémisphère gauche, qui part de la voie ventrale et qui est aussi des régions dans le cortex préfrontal, ce réseau de la lecture est en fait entraîné, déjà activé par le jeu GraphoGame qui exerce, et ça évidemment l'écran peut très bien le faire et facilement, aux correspondances entre les sons et les formes des lettres, donc correspondances graphophonologiques. Ça, c'est la conception qui en général n'est pas très discuter, tout le monde est d'accord sur le fait que des jeux éducatifs c'est génial pour les enfants et en complément de l'école, ça tout en jouant les entraîne à des acquisitions scolaires, académiques, fondamentales. Un autre jeu dans le domaine de la lecture a utilisé les propriétés physiques d'une tablette, à savoir que l'on peut très facilement écarter les lettres avec les doigts ou programmer l'écartement des lettres pour des enfants dyslexiques. Et donc ce dispositif permet de corriger un bon nombre de difficultés des dyslexiques et il existe donc cette application d'espacement de lettres sur tablette, ce qui fait que lorsque les lettres sont espacées, les enfants les confondent moins. Dans le même esprit, et pour les 6-12 ans, il existe, le laboratoire de Stanislas Dehaene a mis ça au point pour le nombre, des jeux, dont un jeu qui s'appelle la course au nombre, qui a été conçu afin d'aider les enfants en calcul en général, et particulièrement les enfants qui ont des troubles de calcul qu'on appelle les dyscalculies. Ce jeu-là porte sur le nombre, le précédent portait sur la catégorisation des lettres et des sons, donc vous voyez qu'on retrouve l'architecture cognitive que je vous décrivais précédemment à travers les écrans et à travers le jeu. Le jeu va suivre le rythme de l'enfant, et les ordinateurs ont quand même une grande vertu que les parents, les psychologues, même s'ils se contrôlent beaucoup, et les éducateurs n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas d'émotion. Et donc l'ordinateur ne va pas s'énerver. L'enfant pourra se tromper autant de fois qu'il le fera, il ne passera pas de niveau. Donc il va peut-être un peu s'énerver sur lui-même, mais il n'y aura pas ce stress qu'il peut y avoir, et surtout quand on est en classe, en groupe, par rapport à l'enfant qui se trompe ou à qui il faut répéter la même chose. Le jeu et l'ordinateur permettent du coup que les choses se fassent plus sereinement, au rythme de l'enfant, donc une pédagogie, une psychologie différentielle, individualisée, au rythme de l'enfant, et on sait que c'est vraiment la clé du succès. C'est-à-dire que l'enfant ne se sente pas enfermé dans son échec, puisse de façon ludique, comme il le fait à la maison pour d'autres choses qui sont moins scolaires, progresser à son rythme, retomber à un niveau plus bas s'il avait oublié, s'il était fatigué, et tout en jouant, apprendre. Il y avait aussi cette application Montessori Math avec du nombre, des opérations, addition, soustraction, multiplication, large échelle de nombre pour des estimations. Donc vous voyez aussi que tout ce qui était, je veux dire, le plus merveilleux dans les pédagogies nouvelles, Montessori, Freinet, d'autres pédagogies, sont aujourd'hui très rapidement, sont déclinées, réutilisées, en complément de l'organisation de la classe, par exemple en atelier qu'on fait pour Freinet ou Montessori, en application numérique. Et que là aussi, il n'y a pas d'opposition entre le numérique et les pédagogies nouvelles, participatives, où l'enfant est acteur, tel Montessori ou Freinet, bien au contraire. Peut-être déjà plus tôt, mais en tout cas au cœur du primaire, vraiment faire une éducation explicite, apprendre à l'enfant l'autorégulation face aux écrans, tant pour son développement cognitif que sa santé. Les questions de fatigue que j'évoquais tout à l'heure, de sommeil, sont évidemment cruciales. Hein. Il y a beaucoup de dérives possibles par rapport à cela. Donc il faut que l'enfant, là aussi, mesure, l'exemple que je donnais, le temps qu'il passe face à l'écran. Peut aussi mesurer le temps de son sommeil avec ses parents, voir si un exercice qu'il a fait avant de jouer sur l'écran ou après, recueille d'aussi bonnes performances pour qu'il mesure l'impact, parfois négatif, que peut avoir l'écran. Alors, une raison, un argument que je peux vous donner sur la raison pour laquelle il est très bien de commencer, et possible en tout cas très tôt, ces réflexions sur l'écran, le cerveau avec les enfants, c'est que dans mon laboratoire où nous sommes, nous faisons par exemple avec des enfants dès la grande section de maternelle jusqu'au CM2, des expériences en imagerie cérébrale magnétique, structurale et fonctionnelle, donc cette énorme caméra que vous voyez là, sous les yeux des parents, nous faisons des expériences extrêmement pointues pour explorer quels réseaux neuronaux s'activent quand l'enfant dénombre, catégorise, raisonne, et en général, pour des raisons de mesure, cela s'est toujours fait sur des écrans, hein, puisque la psychologie expérimentale, scientifique, depuis l'apparition des micro-ordinateurs dans les années 80, utilise des écrans pour programmer les stimulations que l'on voit à l'écran, des images et des sons, des questions que l'on pose à l'individu qui passe l'expérience. Et surtout lorsqu'on fait de l'imagerie cérébrale, vous comprenez qu'il faut une parfaite synchronisation, comme dans un orchestre. Donc on doit savoir, quand on mesure le cerveau, ce que l'enfant était en train de répondre à ce moment-là, ou ce qu'il voyait, ou ce qu'il entendait. Donc l'ordinateur est de fait, pour des raisons de mesure, de science, au cœur de ces dispositifs. Mais dès lors, en même temps, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de données, et là les psychologues, je pense, sont très bien sur ce point, ils apportent quelque chose à la société, on a déjà beaucoup de données sur la façon dont, selon les âges, le cerveau de l'enfant peut réagir face aux écrans. Donc, cet exemple de recherche que nous faisons, simplement pour vous dire, il ne faut pas avoir peur de parler très tôt aux enfants, des choses les plus sérieuses, alors tous les psychologues et psychanalystes le savent pour tout ce qui est du domaine psycho-affectif, mais je puis vous confirmer que c'est la même chose pour les domaines de la psychologie cognitive, des neurosciences, des technologies les plus exigeantes et contraignantes auxquelles les enfants finissent par participer avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Il faut aussi parler de ces choses très sérieuses dès l'école maternelle et qu'il ne faut attendre ni l'adolescence ni l'université pour commencer à parler de numérique, de cerveau, d'écran, d'alternatives du réel ou du virtuel dès le plus jeune âge. On peut parler de cela avec les enfants si on utilise les mots qui sont les leurs et que l'on suit aussi leur raisonnement. Je vous donne un exemple. Dans une classe, on demandait aux jeunes enfants comment, dès l'instant, on s'était accordé sur le fait que tout le monde avait un cerveau, les filles, les garçons, les grands, les petits, comment pourrait-on voir le cerveau qui fonctionne? Et un petit lève le doigt et dit « Ah, moi je sais ». Je le laisse parler et il dit ben, « C'est très simple, il n'y a qu'à envoyer les bestioles ». Alors, vous savez qu'en maternelle, souvent ce qu'on appelle les bestioles, ce sont les poux, hein, qui soucient beaucoup les enfants, les parents et les profs à certains moments de la classe quand il y a des poux dans les cheveux. Ah bon, tout le monde rigole, on suit l'idée de l'enfant, donc on va faire de l'épistémologie naïve, des neurosciences naïves, et l'enfant dit, ben, c'est très simple, les cheveux ce sont des tubes, donc dans le tube, on va envoyer la bestiole qui va descendre à travers le tube jusqu'au cerveau, nous dire ce qui se passe, comment il est, remonter par le tube et nous raconter ce qui se passe dans le cerveau. C'est extraordinaire. Tous les enfants rigolent, mais l'enfant a réinventé en épistémologie naïve avec son imaginaire ce que de grands scientifiques, et cela a donné un prix Nobel, ont inventé durant la dernière moitié du XXe siècle, c'est-à-dire ces technologies d'imagerie cérébrale qui combinent physiologie, neurosciences, psychologie. Concernant les adolescents, pour conclure cet exposé, je veux à la fois... Alors, sachant que les ados d'aujourd'hui n'ont pas nécessairement eu tous ces programmes, toutes ces découvertes, toute cette éducation déjà implicite ou explicite aux écrans dès le plus jeune âge. Il y a donc des aspects positifs et négatifs, évidemment, dans l'usage des écrans aujourd'hui chez les ados. On va prendre la tranche 12-18 ans. C'est l'âge où particulièrement ils apprennent à raisonner, ils se mettent sur un mode hypothético-déductif. Le réel devient un cas particulier du possible, donc ils font des hypothèses, ils imaginent un monde autrement, émergent les premières idées politiques, les réseaux sociaux renforcent fortement cela aujourd'hui, donc ils raisonnent. Le positif chez les adolescents utilisateurs maintenant réguliers, voire intenses du numérique, est une pensée donc rapide, fluide, assortie à une facilité d'explorer beaucoup de possibilités virtuellement, Internet, moteurs de recherche, réseaux sociaux, jeux, ce qui peut aider, on le comprend, au raisonnement hypothético-déductif sur le monde. Puisque s'ils utilisent intelligemment tous ces instruments numériques, en effet, ils peuvent explorer, tester des hypothèses avec une envergure et une puissance qui n'avaient jamais été atteintes auparavant. Le risque, du point de vue plus négatif, serait que ces avantages que je viens d'évoquer, rapidité, fluidité, s'accompagne d'une pensée qui deviendrait, pour le coup, trop rapide, trop superficielle. excessivement fluide. C'est bien d'être fluide, tout le monde dit c'est formidable d'être fluide, d'être flexible, mais ce serait ici excessivement fluide. C'est ce qu'on a aussi déjà appelé la culture du zapping, que l'on voit très bien, non seulement face à l'écran, mais qui du coup se décline dans ce qu'on appellerait toujours le monde réel, c'est-à-dire qu'on passe très très rapidement d'une chose à une autre, sans l'approfondir, sans réfléchir. Et à l'école notamment, ça crée de l'ennui, parce que l'école commence à être numérique, mais ne l'est pas encore totalement, et même pas beaucoup. Et donc, il y a un ennui nouveau qui se crée, et qui vient de ce décalage entre cette culture numérique fluide, rapide, de jeu, notamment à la maison, et l'école, qui est encore assez traditionnelle. Alors, l'ennui peut quelquefois être fécond, c'est ce que disait Paul Valéry, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un ennui qui n'est pas fécond, et que là, ça peut vraiment être un risque. Des études montrent d'ailleurs que l'usage d'Internet appauvrirait la mémoire, c'est-à-dire que les jeunes retiennent plus les accès, les liens sur les moteurs de recherche, comme Google, que les contenus eux-mêmes et leur synthèse. Et on le comprend, on va vite, on explore plein de liens, on clique, on change, on regarde plusieurs liens simultanément par des fenêtres simultanées, mais pour le coup, lorsqu'on fait des tests de mémoire tout à fait classiques après, dans des groupes différents, des utilisateurs intenses des moteurs de recherche, des utilisateurs moyens et des utilisateurs, on va dire, faibles, rares, on remarque que chez les utilisateurs intenses, ils ont une sorte de métamémoire de lien. Mais si vous allez plus loin, que vous grattez un peu, pas de connaissances profondes, pas de réflexion personnelle sur chacune de ces connaissances. On pourrait aussi se dire là, attention, ça a toujours existé. On a tous, vous voyez ici dans mon bureau, on a tous une bibliothèque chez soi, il y avait des bibliothèques publiques. On sait que on n'a pas lu tous les livres. On se mentirait, mais on sait dans quel livre, à quel endroit, quel chapitre aller chercher telle information. Donc c'est un peu cela qui se passe avec la mémoire des liens sur les écrans, sur le numérique. Simplement, une fois de plus, c'est une question d'intensité. Ça devient sans doute excessif. C'est excessivement une mémoire de liens, sans quelquefois ne plus jamais avoir pris le temps d'approfondir ou de lire de façon linéaire un livre ou un exposé sur Internet, de manière à prendre le temps d'approfondir et de réfléchir. Et le cerveau le sait, a une contrainte limitée qui n'a pas changé depuis des millions d'années, qui est qu'on ne peut pas réellement faire deux choses qui nécessitent de l'attention, de la concentration en même temps, et que quand on en fait une, on peut retenir, mobiliser 7 plus ou moins 2 unités. Donc de toute façon, un nombre réduit d'unités et une tâche à la fois. Et ça, ça demeure, c'est une caractéristique, on va dire, une limitation de notre cerveau. Même chose pour les notes manuscrites sur clavier, donc, ou les notes manuscrites. Des études de ce type ont montré que lors de l'examen, si les notes en cours ont été prises de façon manuscrite, les performances sont meilleures, notamment pour les sujets de réflexion, que les étudiants qui très rapidement ont noté sur clavier. Or, tous nos étudiants aujourd'hui quasiment notent sur clavier. Et l'explication est vraiment très simple, les biomécaniques. C'est-à-dire que quand on tape sur des touches, on peut aller beaucoup plus vite, aussi vite que la parole du professeur ou du conférencier, comme là je parle trop et sans doute très vite, avec le clavier on peut suivre. Quand vous écrivez de façon manuscrite, pour des raisons liées à la lenteur de l'écriture, vous ne pouvez pas tout noter, et donc vous êtes obligé avant même d'écrire de faire une micro-synthèse cognitive. Et ça, on l'a appris à le faire en permanence, c'est la prise de notes. Mais dès lors, la synthèse est au niveau de l'encodage. Et lorsque l'on restitue un examen pour une question de réflexion, eh bien on a une meilleure performance. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut tout simplement, maintenant que c'est établi scientifiquement, expliquer aux jeunes, expliquer aux profs, et aussi aux politiques, parce que dès lors, ça veut dire qu'il faut surtout continuer d'apprendre l'écriture manuscrite, et aussi bien sûr l'écriture sur clavier, et c'est comme les questions évoquées depuis le début de cette conférence, le cerveau a cette potentialité de fonctionner sur des registres différents, et ici, pour l'écriture par exemple, comme pour le dessin chez le jeune enfant, sur tablette ou dans le réel, ils peuvent apprendre à faire les deux et avoir l'intérêt de l'un et de l'autre. On sait qu'il va y avoir d'ici peu une explosion de données, qu'il y aura trop de données sur les ordinateurs et dans le numérique, qu'on va atteindre un plafond. On va donc très certainement, c'est une prédiction que je fais, devoir passer, et c'est très bien, du quantitatif au qualitatif. Donc, il y aura moins de production numérique, il y aura moins d'informations qu'on pourra stocker et utiliser. Et nécessairement, ce qualitatif devra aussi tenir compte de ce qui est bon pour l'enfant, sa psychologie, son éducation, son cerveau. Et on ressent déjà que les parents, comme les professeurs des écoles, sont demandeurs de cela. Et l'hypothèse que je ferai, le parallèle, est que dans le domaine du numérique, et du lien, on va dire, entre psychologie et numérique, va se développer un label, ou on devrait développer un label, de type label bon pour le cerveau, ou bon pour la psychologie, un label neurocognitif, qui est l'équivalent, qui serait l'équivalent du label bio dans le domaine agroalimentaire. Et quand vous savez que l'industrie du numérique est au monde, l'industrie la plus florissante, croissante, et on comprend pourquoi, puisque ça concerne aussi les pays émergents, où il n'y avait pas ou peu, par exemple, suffisamment de culture, de livres, d'infrastructures scolaires, on se dit qu'en effet, il y a là un champ où les psychologues ont un rôle énorme à jouer pour aider à construire, avec des start-up ou des grosses entreprises de jeux numériques, les aider à construire des jeux qui soient intelligents et adaptés au développement cognitif des enfants dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de leur enfance jusqu'à l'adolescence en les y préparant. Voilà.